c'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche, c'est tout. Salut.
Toutes les semaines, sur Ado Judaïka, retrouvez l'émission Nos Adorés. C'est l'émission qui répond aux questions que se posent les ados.
Et que nous conseillons vivement aux parents.
Tous les mardis, à 13h30. Bonjour à tous et bienvenue dans Nos Adorés. Aujourd'hui dans Nos Adorés, c'est une configuration un peu particulière parce qu'on reçoit ce que je vais appeler un grand témoin, c'est-à-dire une personne qui a vécu durant son adolescence et sa prime jeunesse une expérience qui pourrait intéresser nos ados. Donc on reçoit aujourd'hui Marie Meyer. Bonjour Marie.
Bonjour.
Donc on va parler de toi durant l'émission, puis surtout de ton rapport au corps, de ton parcours, etc. Donc toi tu es vidéaste, tu es photographe et tu es mannequin. Est-ce que c'est bien ça ?
C'est ça.
Ouais, exactement. Donc j'avais envie de discuter avec toi parce que je pense que tu peux conduire à une forme de prise de conscience en fait chez nos ados, étant toi-même dans le monde de la beauté, du glamour et tout ça. J'aimerais que tu nous parles d'abord, avant qu'on commence un peu, de ton parcours globalement.
Alors mon parcours, j'ai commencé vers 16-17 ans le théâtre. Ensuite j'ai découvert le mannequinat et ça m'a beaucoup plu parce que je trouvais ça sympa de prendre des photos, de changer de tenue. Et ensuite, suite à au mélange des deux, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas essayer le cinéma. Donc, j'ai essayé le cinéma aussi. Et donc, petit à petit, ben, j'ai agrandi mon expérience au fur et à mesure de différents projets. Et donc, oui, ça fait maintenant 17 ans que je suis mannequin. Après, j'ai repris la photographie un peu plus tard, mais plutôt comme une passion.
Oui.
Et aujourd'hui, je commence à en faire plus régulièrement parce que bah, c'est une façon aussi de partager avec les artistes autour de moi. Donc, c'est quelque chose qui était à la base instinctif, mais qui est devenu une activité régulière. Donc, effectivement, tout ça, c'est un rapport au corps, tous ces métiers-là, et à la beauté, qui n'est pas forcément extérieure, aussi intérieure, hein, parce que c'est aussi ça qu'on essaie de transmettre dans les images et qu'on essaie de vivre.
Bien sûr.
Donc c'est un parcours, ouais, c'est mon histoire de vie presque, ce parcours-là, ce thème-là en fait, parce que c'est vrai que j'y reviens souvent dans ma vie.
Oui, moi c'est ce qui m'a interpellée te concernant quand on s'est rencontrés, parce qu'on va pas le cacher, on se connaît, hein. On n'est pas en train de se découvrir, mais les auditeurs vont te découvrir et on va tout de suite passer à la première rubrique en l'occurrence.
Et maintenant,
c'est l'heure de la rubrique.
Et vous, quel ado étiez-vous ?
Oui Marie, c'est un peu une question rituelle dans cette émission, c'est de se demander, de s'interroger un peu plus sur la période charnière qu'est l'adolescence. Qu'est-ce que tu nous dirais toi de ton adolescence ?
Oh ben moi je dirais que j'étais un petit peu perturbée quand même, mais sans avoir vraiment conscience que c'était avec mon âge. Je pense que c'est un moment de prise de conscience de beaucoup de choses. Et encore, je dirais qu'en tant qu'adulte après c'est un éternel chemin de se poser des questions et finalement, même en tant qu'adulte, aujourd'hui j'ai 35 ans et je dirais qu'on est juste simplement des grands enfants. Donc,
on fait taire l'adolescent ou on fait taire l'enfant en soi, mais ils sont tous encore là, quoi. C'est ça que tu nous dis.
Oui, voilà. Enfin, après, c'est vrai qu'on réduit un peu l'adolescence. C'est une période de changement. Donc, forcément, on vit plein de choses, comme dans toute période de changement dans la vie.
Oui.
Après, c'est vrai qu'on est un petit peu habitué à ce qu'il y ait des changements. Donc, l'adolescence, c'est vrai que c'est un des grands changements. Donc, on peut éventuellement se sentir un peu déstabilisé. Moi, je l'étais quand j'avais 15-16 ans. J'ai commencé à me poser plein de questions sur la mort, sur l'amour. J'étais un peu une adolescente passionnée. J'aimais bien les tragédies. Je faisais du théâtre. Mm-hmm. J'avais eu envie d'aller expérimenter ça, de comprendre.
De tester un peu les limites aussi de ton corps, justement, parce que toi, tu as quitté prématurément ton foyer familial, en fait, pour ton travail de mannequin, non ?
Oui, mais c'est pas forcément lié à expérimenter mon corps. Ça, c'est plus d'un point de vue personnel où on a envie. Oui, c'est vrai que j'avais envie de découvrir le monde. Et je sentais que chez moi, c'était invivable, que je ne pouvais pas rester chez moi, comme la plupart des adolescents, que mes parents ne me comprenaient pas.
Simplement, toi, t'es partie pour de vrai, hein. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des adolescents.
C'est vrai, mais après, je me suis sentie prête aussi à un moment de le faire. Et même si c'était difficile, à certains moments, après, j'ai tenu parce que je pense que j'étais prête à vivre toutes les embûches et à vraiment commencer à travailler. C'est pas évident de commencer à travailler à 17 ans parce que, par exemple, le mannequinat, c'est quand on voit ça dans les magazines, etc., on trouve ça joli, c'est une jolie page, peut-être à la mer ou quelque chose. Mais après, le travail de mannequin, c'est un travail en soi, donc ça demande aussi d'aller à ses castings, de prendre soin de soi, de faire beaucoup de démarches, voilà, de casting, de rendez-vous, de retourner voir des clients, de faire des essayages, etc. Donc tout ça, ça demande du temps, donc j'ai commencé à travailler très jeune.
Oui, on l'a. Donc, tu nous as dit vers 16-17 ans, tu étais déjà en plein dans une activité professionnelle alors que la plupart, on est encore au lycée.
Oui, à 18 ans, j'ai décidé de faire ma dernière année par correspondance.
Et quel était à ce moment-là ton rapport à la nourriture? Il était particulier déjà ou pas?
Oh, non, j'étais bien chez mes parents, je mangeais. Mes petits repas, et c'est plutôt quand j'ai commencé le mannequinat après où déjà la difficulté d'être partie du foyer familial et de devoir travailler et se nourrir, c'est à 17 ans, c'est pas aussi simple de pouvoir tout de suite gagner de l'argent en tant que mannequin. On a beaucoup de frais, des frais d'avion, des frais d'avance de nos clients ou des agences qui après on doit rembourser avant de pouvoir travailler régulièrement et de se faire une place dans le marché.
Ah oui, on l'ignore effectivement quand on n'est pas du
métier.
Oui,
ça quand on commence le mannequinat, c'est aussi un moment qui est difficile par exemple et qui en plus couplé au travail de mannequin où on peut y venir aussi, on demande d'avoir une taille particulière, de faire un 36-38, de correspondre à un certain stéréotype au niveau du corps, et avec la difficulté de pouvoir se gérer, d'être autonome, ça, c'est vrai que ça fait un point fragile pour certains mannequins. Ça devient aussi la naissance d'une pathologie, l'anorexie, la boulimie ou d'autres troubles alimentaires qui concernent aussi beaucoup de jeunes filles, vu que en vrai, si on commence à écouter les stéréotypes autour de soi, on peut vite tomber dans une espèce de cercle vicieux où on a l'impression d'être pas à la hauteur et de changer son attitude et commencer à, même inconsciemment, à se comporter différemment par rapport à la nourriture.
Donc ça a été cas, toi tu t'en es rendu compte à un moment, tu t'es dit mince, là c'est pas normal, mes prises alimentaires sont trop espacées, ce que je mange n'est pas suffisant, comment ça s'est passé?
Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais au bout d'un moment, je m'en suis rendu compte que je prenais des vêtements de plus en plus petits.
D'accord.
Et effectivement, j'ai commencé à me rendre compte que j'avais perdu beaucoup de poids. Et là, j'ai commencé à prendre conscience tout d'un coup que je mangeais plus 3 repas par jour. Et que je pouvais me contenter juste d'un repas, par exemple. Et ça me gênait pas. Donc, j'ai commencé à me dire, moi, j'ai un problème avec la nourriture. Il va falloir que je comprenne pourquoi j'en suis arrivée là. Mais ça a été un peu la deuxième étape. La première, ça a été d'essayer de me tester moi-même et de remanger comme tout le monde. C'est-à-dire comme je mangeais à la cantine quand j'étais enfant. C'est-à-dire 3 repas par jour. Et je me suis rendu compte que j'avais pas faim. Donc, je me suis encouragée. J'ai pris un petit carnet et j'ai commencé à noter les choses que j'arrivais à manger. Donc même le matin, si j'arrivais à prendre un jus d'orange, je marquais un verre de jus d'orange. Et j'en étais venue à ce point-là, de commencer à... Et en fait, c'était un moment qui était difficile parce que je me suis mis un peu face à moi-même en me disant, c'est un problème, je vais le régler moi-même, sans prendre complètement conscience que ça aurait pu être plus grave, en fait, si j'avais pas eu ce petit éclat de conscience. Et petit à petit, j'ai repris une alimentation et après, plus tard, j'ai eu un enfant, donc j'ai aussi connu le fait de devenir maman et d'avoir son corps qui change. Et j'ai repris le mannequinat après, donc ça m'a aussi permis de travailler mon corps, de faire du sport, de ressentir mon corps différemment. Et je pense que c'est possible de régler ce genre de problème si on est un petit peu alerte Et si,
attentif à soi. Mais moi, en fait, ce qui m'interpellait dans ton parcours, c'est, enfin, je me disais, après, c'est peut-être faux, hein, mais que tu devais être plutôt valorisée du fait d'avoir gagné en maigreur. J'imagine que tu travaillais peut-être mieux, qu'il y avait peut-être plus de contrats qui tombaient. Enfin, je sais pas, c'est
pas
peut-être moi qui m'imagine comme
fait,
ça.
D'accord. C'est pas parce qu'un stéréotype existe que on va plus travailler, on va plus rentrer en rentrant dedans, on va plus travailler et avoir plus de résultats positifs. Mmh. Parce qu'à un moment, après avoir eu un enfant, j'ai décidé de plus correspondre à des critères, par exemple, de faire du 36, mais je faisais plutôt du 38, ou j'essayais de respecter la nature de mon corps, et surtout essayer de me sentir bien. C'est-à-dire à partir du moment où je commence à me sentir que là c'est trop, ou que là je me prive trop de manger ce que j'ai envie de manger, et ben, je m'écoute plus que quand j'avais 20 ans où j'étais un peu perdue, je connaissais moins mon corps. Je pouvais peut-être subir plus les pressions de mon métier ou de certaines personnes. Et donc, du coup, j'étais pas en mesure de pouvoir faire face. Mais quand j'ai changé en grandissant et que j'ai évolué différemment, je me suis rendu compte qu'en fait, je travaillais pas moins. Au contraire, vu que j'étais bien dans ma peau et que j'étais bien dans mon corps, je travaillais peut-être pas avec les mêmes clients.
Tu dégageais une image de... Oui, peut-être qu'il allait attirer les clients qui te correspondaient plus, quoi.
Voilà, exactement. Ouais.
Mais ma question, c'est quand même aussi de me dire... ça donne quand même un sentiment de toute puissance d'être capable de se priver de nourriture comme ça jusqu'à un certain point. Est-ce que tu comprends ces jeunes filles? Pour la plupart, quand même, c'est des jeunes filles qui trouvent une forme de dynamique et d'énergie, de se dire, voilà, j'y arrive, et toujours aller plus. Parce que toi, tu as eu finalement cette prise de conscience intéressante de te dire, voilà, je vais commencer à noter un peu ce que je mange parce que c'est préoccupant. Mais il y en a beaucoup, des filles qui doivent certainement t'écouter là et se dire, mais moi, j'arrive pas à faire ça parce que moi, ça me plaît, en fait, d'être vide. Ça me plaît de ne rien manger. Mmh. Je me sens bien comme ça. Comment leur dire? Que leur dire?
Je pense que ça dépend à quoi c'est relié. Si c'est par rapport à son corps, ce que j'essaierais de dire à ces jeunes filles, c'est d'essayer de... c'est bateau un petit peu, mais c'est de faire la paix avec son corps en acceptant son corps tel qu'il est. Et c'est facile à dire, mais c'est vrai que c'est pas du tout facile à faire. Après, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est le sport. Parce que le sport, on travaille des muscles de son corps qui après nous intègrent la façon dont on perçoit son corps, la proprioception.
Oui.
Et ce ressenti-là, on a dans le corps après, bon, peut-être que le premier jour ça passe par des courbatures, mais le deuxième jour après, le corps intègre dans sa mémoire ce ressenti-là. Et le fait de sentir son corps tonique comme ça et en bonne santé, moi c'est quelque chose qui m'a aidé à balancer la préférence entre me sentir vide, parce que finalement quand on se sent vide, on est fatigué et on est dans le contrôle, on est tout le temps dans le contrôle parce qu'on pense que en excellant comme ça, on va y arriver. Alors que c'est pas forcément la seule solution. Mais il faut pouvoir se détendre et s'ouvrir à d'autres solutions et essayer d'autres choses et être à l'écoute aussi des résultats pour pouvoir contrebalancer. En fait, c'est savoir déplacer, déplacer toutes les anxiétés qu'on peut avoir. Bon, on les déplace autrement. Par exemple, en faisant du sport aussi, il y a beaucoup d'hormones qui sont utilisées qui permettent de dégager le stress. Et visuellement, on commence aussi à voir les conséquences. Par exemple, quand on commence à sentir qu'on est musclé, quand on se sent belle dans une robe, alors qu'en vrai, il n'y a pas de grands changements. Mais c'est aussi psychologique, c'est aussi le ressenti. Il faut aussi s'accrocher à ça et pas seulement à l'image que nous renvoie un miroir. Et ça, ça ne se travaille pas qu'avec le côté physique, ça se travaille aussi avec l'intérieur, avec soi-même.
Mais ce qui est difficile à l'adolescence, effectivement, c'est de se dire, je vais réussir à déplacer le problème vers une autre forme de discipline, parce que finalement, le sport, c'est une discipline, et si c'est la discipline et si c'est le dépassement de soi que recherchent ces personnes, ça peut tout à fait les combler, effectivement, et les nourrir, sans mauvais jeu de mots.
Exactement.
Mais toi, tu as d'autres amis autour de toi qui étaient dans le mannequinat et que tu as vu s'enfoncer, finalement, dans une vraie TCA, dans un vrai trouble du comportement alimentaire?
Oui, j'ai pas mal d'amis qui ont eu des soucis et pas mal d'amis aussi qui ont eu des prises de conscience comme moi et qui, pareil, après ont eu des enfants ou ont fait du sport, ont leur abonnement à la salle de sport. Donc, je pense que Oui, ça dépend de son propre chemin. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui sont touchées parce que c'est un âge où on est un peu plus fragile, où on apprend à connaître son corps, dans tous les domaines. Donc, c'est vrai que c'est une période charnière de la vie d'une femme.
Est-ce que toi, tu as le sentiment que les réseaux sociaux peuvent avoir une influence encore plus délétère sur les jeunes ados qu'à ton époque, à toi, même si tu n'es pas un dinosaure, hein, tu as tout de même 35 ans. Donc toi, quand tu as commencé à poster sur les réseaux sociaux, c'était peut-être pas non plus... j'ai l'impression là qu'elle se réfère quand même à pas mal de jeunes filles qui sont d'une extrême maigreur. Je ne vais pas les citer, voilà, mais on voit très bien de qui on parle et qui vont peut-être promouvoir un peu cette image de...
Après, je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'il y a ce genre de photos sur Internet, il y a même des sites pro-anorexie qui sont autorisés même par Instagram, c'est quand même assez grave parce que quand on interdit...
On cache un téton, mais par contre le reste...
Voilà.
Ouais, bref.
Mais ça, c'est un autre sujet, mais ce que je veux dire, c'est que il y a aussi aujourd'hui beaucoup plus de femmes qui s'assument dans leur forme. Et même au niveau, par exemple, du mannequinat, c'est beaucoup le marché américain et canadien qui ont commencé ça il y a déjà 15 ans. Donc les Français, c'est vrai qu'ils sont un temps en retard. Mais maintenant, on a ce qu'on appelle les mannequins plus size, c'est-à-dire des femmes qui font, par exemple, du 44, du 46, qui sont très rondes et qui l'assument complètement. Et on commence à ouvrir un petit peu le marché à ces femmes-là. Donc ça, déjà, c'est un changement.
Mais le gap, il est quand même énorme, excuse-moi. Le gap est quand même un peu énorme entre une fille qui fait du 32 et une fille qui fait du 44. Il serait temps peut-être que des filles normales, entre guillemets, soient représentées. Attention, je ne dis pas que les plus size ne sont pas des filles normales. Au contraire, on est toutes, à notre manière, dans la normalité. Mm-hmm. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on acceptera peut-être une personne ronde. Mais entre les deux, il n'y a pas grand-chose de représentatif de la femme basique qui fait du 42 en France. Hein, c'est quand même la taille basique, enfin la taille... Oui. Moyenne. Donc, c'est ça qui me.
Mais c'est vrai qu'en France, le marché n'est pas du tout le même qu'en Angleterre. Ou par exemple, en Angleterre, on a la marque Marks & Spencer, qui est une marque un peu assez répandue en Angleterre et même en Europe, qui présente des tailles comme du 36 jusqu'au 46 ou même 48. Alors qu'en France, ça va être beaucoup plus difficile. Après, ça, c'est les dictats de la mode, les dictats des magazines. Et ça, petit à petit, ça va aussi évoluer, je pense. Parce qu'on est quand même... Moi, j'ai vu une évolution ces dernières années.
Tu l'as vu dans les coulisses, comme ça ? C'est plus les mêmes tailles qu'on propose sur les mannequins ? Parce que maintenant, il y a un peu des... Il y a
même,
une charte qui est sortie,
plus,
non ?
C'est-à-dire que, je dirais même plus, c'est-à-dire que le mannequin n'est même plus une référence dans la mode aujourd'hui. On prend, par exemple, j'ai regardé les derniers défilés au mois de septembre. La plupart des mannequins qui étaient, entre guillemets, qui étaient pris sur les défilés, ce sont des performeurs, des artistes.
D'accord. Ce ne sont pas que mannequins, entre guillemets.
Voilà, ce ne sont pas que des mannequins. Oui. C'est aussi, donc, en fait, on est aussi en train d'ouvrir... Là, le marché, je pense qu'il y a eu un ras-le-bol justement de tous ces dictats de la mode et aussi de voir qu'il y a eu quand même des filles qui ont été décédées de ça, c'est arrivé, ou beaucoup de filles qui ont eu des troubles du comportement. Je pense que ça fait changer les consciences un petit peu.
Toi, tu y penses quand tu postes sur ton Instagram, qui est Rosemary Meyer, il me semble. Tu y penses quand tu postes quelque chose sur ton Instagram, tu penses à l'influence que ça peut avoir sur les jeunes personnes qui regardent ou pas du tout ?
Oui, mais ça concerne pas seulement mon corps, mais tout. C'est-à-dire je poste pas une photo en me disant est-ce que sur cette photo je me trouve belle et elle va visuellement plaire à tel genre de personne.
Oui, toi c'est pas ta démarche, toi c'est ta personnalité que tu veux exprimer.
Oui, voilà, c'est plus un sentiment avec une belle image. Ou quelque chose, une phrase, ou quelque chose, ou un artiste, ou un sentiment. Ça, c'est plutôt dans mes stories. Ça. Dans mes stories, je fais plutôt des blagues. Mais après, c'est vrai que je pense aux générations plus jeunes. Déjà, j'essaye de pas trop mettre des gros mots. Bon, parfois, je fais des doigts d'honneur, j'avoue. Mais
une fois par jour.
Ouais, c'est un petit peu rebelle. Mais après, j'en profite parfois aussi pour passer des messages.
Bien sûr.
C'est intéressant. Les réseaux sociaux, il faut bien les utiliser. Il y a de tout sur les réseaux sociaux. Donc, ça, une fois qu'on se sent bien dans sa peau, en fait, c'est comme quand on se sent bien dans sa peau, on trouve ses clients, ce dont je parlais tout à l'heure, qui vont être adaptés à la façon dont on se sent bien. Et ben là, c'est pareil sur Instagram. Si on va vers telle sorte de choses et on aime partager telle sorte de sujet, on va forcément aller partager avec des gens qui partagent la même vision que soi.
Les gens iront voir sur ton compte Instagram, mais tu as un rapport au corps, quand, en tant que vidéaste, tu as un rapport au corps qui est assez profond et très proche en fait, de la peau et de l'humain qui est devant toi, qui parfois danse et autres. Et tu vois un parallèle avec ton vécu, justement, tu penses que le corps, c'est quelque chose qui t'interroge beaucoup ?
C'est vrai, je ne sais pas si ça m'interroge, mais en tout cas, depuis que j'ai accepté mon corps... sans vraiment me poser, je me pose toujours de temps en temps des questions, mais c'est vrai que j'ai pas du tout le même rapport à mon corps que quand j'avais 15 ans, alors que aujourd'hui, après avoir eu un enfant, etc., c'est quand même beaucoup, beaucoup de changements. Donc, je sais pas, je pense que il y a quelque part dans ma façon de vouloir filmer les gens tels qu'ils sont, l'acceptation de soi, qui est très importante. Et c'est vrai que quand je filme quelqu'un, je cherche vraiment à faire un portrait et aller chercher ça. Par exemple, j'ai fait un portrait il n'y a pas longtemps d'un danseur. Et au départ, il a eu un accident de scooter, donc il a des grandes cicatrices partout sur le corps. Mais aujourd'hui, il a repris la danse et il danse. Et je trouve ça magnifique. Quand je vais danser, à chaque fois, ça me fait quelque chose. Et je lui ai dit, viens, on va faire un film, mais j'aimerais filmer tes cicatrices. Et la veille du tournage, je lui ai dit, en fait, non, je ne vais pas les filmer. Mais on va y penser pendant qu'on filme. Et du coup, ça nous a...
On l'a senti,
c'est-à-dire
qu'on
a, on l'a mis quelque part.
Ouais.
Mais c'est pas sans le mettre comme un trophée, mais juste l'accepter et le vivre comme ça et laisser les choses se faire. Parfois, c'est ça l'acceptation du corps, c'est aussi l'acceptation de soi, l'acceptation de ce qui nous arrive. Parce que voilà, notre corps, c'est notre instrument. Là, on parlait des troubles alimentaires, mais ça peut aussi être des accidents.
Oui, la vie donc... qui nous façonne, en fait. Et toi, tu peux nous parler rapidement de tes projets à venir là, de quoi il est question là, dans les prochaines semaines, prochains mois?
Alors là, je prépare un film en ce moment avec une vingtaine de danseurs et mon compagnon qui est chorégraphe et danseur, qui s'appelle Patrick Cuau, qui est un homme plein d'énergie et plein d'idées. Et qui avait cette référence en tête et depuis qu'il était jeune, tout jeune, et qu'il était en train d'apprendre la danse.
D'accord.
Et c'est un film sur la transe, donc c'est-à-dire que c'est des danseurs qui rentrent dans un gymnase comme ça, comme s'ils allaient en cours de sport et qui commencent à danser et à rentrer en transe parce que on a ça dans le corps quelque part. Je ne sais pas si on peut évoquer le sujet rapidement, mais tout ce qui est, par exemple, rêve party, beaucoup dans l'Est de la France d'ailleurs, vers Strasbourg, il y en a pas mal. Mais c'est une façon de partager la danse sans avoir...
Une sorte de communion, en fait,
ouais, une sorte de communion et de liberté totale dans la danse. C'est-à-dire que c'est un endroit où il n'y a pas de problème d'ethnicité, d'appartenance à un groupe.
Tous égaux, tous unis, quoi.
Voilà, chacun peut danser comme il veut et du coup, ça crée cette espèce d'énergie sur la musique, une totale liberté. Et c'est ça qu'on aimerait filmer dans ce film. Donc là, on est en train de préparer de finir.
C'est beaucoup de travail, j'imagine.
Oui. Et en même temps,
c'est grisant.
Ça fait du bien de l'écrire. Mmh. Ouais, on
carrément.
A hâte de le tourner. Donc après Noël, certainement en janvier.
D'accord.
Voilà.
Merci Marie. On va passer à la dernière rubrique, d'accord ?
Et maintenant, c'est l'heure de la rubrique...
Les ados vous conseillent.
Alors là, c'est une ancienne ado qui va nous conseiller très rapidement une expo, d'après ce que tu m'as dit, Marie.
Oui, donc moi, je suis allée voir cette exposition la semaine dernière au musée d'Orsay. Donc, c'est un peintre qui s'appelle Edgar Degas qui a découvert l'Opéra de Paris quand il était jeune. Et il a commencé à vouloir travailler très proche des danseurs. Donc à en faire des croquis et à commencer à les peindre. Et puis petit à petit, il est rentré complètement dans ce monde de l'opéra. Donc il a commencé à décupler ses œuvres avec des formats différents. Ça pouvait être des formats d'éventail, comme les femmes qui venaient voir le ballet, tout à l'opéra. Et c'est très beau de découvrir tout son travail et de rentrer dans ce monde qui est en même temps le monde de la danse, en même temps l'expression du corps. Et de voir un homme comme ça qui a pu témoigner même des petites discussions dans les coulisses.
Oui, il était comme une petite souris un peu partout, oui, voilà. En train de voir ce qui se passe.
C'est,
ouais.
C'est très beau parce que ça donne plein d'angles de vue différents. Et pas seulement des danseurs eux-mêmes, mais aussi de tout le monde autour qui les regarde. Et c'est vraiment très beau comme exposition.
Ben, c'est une belle...
Je pense que c'est jusqu'au mois de janvier.
D'accord.
Donc, si jamais... Il y a des Alsaciens qui viennent au marché de Noël et qui quittent leur fameux marché de Noël.
Ouais, c'est ça. Pour si venir on arrive à partir, hein, parce que c'est pas facile. Mais en tout cas, merci Marie, c'est une belle conclusion. Et puis merci encore pour ta participation amicale à notre,
avec plaisir.
Tentative de répondre aux questions des ados. Et c'est toujours intéressant pour eux d'avoir des adultes qui s'expriment sur leur passé comme ça. Merci à toi.
Merci à vous. Au revoir, bon après-midi.
Dans cette maison, on peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche, c'est tout. Salut.
Toutes les semaines sur Radio Judaïka, retrouvez l'émission Nos Adorés. C'est l'émission qui répond aux questions que se posent les ados
et que nous conseillons vivement aux parents.
Tous les mardis à 13h30